Les points de départ des sortes de retraites est une observation qu'on a fait environ 4 ans, c'est-à-dire on s'est rendu compte qu'on s'est soucié beaucoup de préserver notre connaissance, notre patrimoine de connaissances culturelles depuis longtemps. D'abord, c'était juste les livres, après les œuvres d'art, après la musique, les films. Après, on s'est aperçu qu'avec l'arrivée de l'informatique, la digitalisation, la numérisation, on préserve aussi tous les formes numériques, tous ces objets-là. Mais il y avait un grand absent dans ces panoramas de préservation, c'était justement les seuls objets qui est au cœur de la révolution et la transformation numérique, les codes sources des logiciels. Donc là, on a commencé à réfléchir à comment on pouvait faire pour essayer de les préserver sous les longs termes. Et c'est ça qui a donné les coups d'envoi, disons, du projet Software Heritage.
Alors comment vous le développez, ce projet, et qu'est-ce que vous proposez aux futurs utilisateurs de cette archive de codes sources?
On veut vraiment collecter tous les logiciels qui n'ont jamais été écrits. Donc pour ça, il faut aller chercher automatiquement les logiciels qui sont encore disponibles aujourd'hui, qui sont activement sur Internet, que vous retrouvez à différents endroits dans lesquels les développeurs les construisent, les déposent. Mais aussi aller chercher des logiciels plus anciens, qui sont un peu plus cachés, qui demandent plus d'efforts. Et là, il faut les faire en collaboration avec d'autres personnes. Donc c'est la phase des récoltes ou collectes de ces logiciels, qui est très important pour nous. Et après, il y a une deuxième phase qui est la préservation. Comment s'assurer qu'à long terme, ces patrimoines culturels n'est pas perdu? Et donc, il y a deux approches. Soit vous pouvez dire, mais on est les plus forts du monde, on a le meilleur ingénieur du monde, la meilleure infrastructure du monde, on fait tout chez nous, vous inquiétez pas, il n'y a rien à voir. Mais disons, ça serait un tout petit peu présomptueux et pas tout à fait intelligent. Nous, on préfère dire qu'évidemment, comme dans toute aventure humaine, il y aura des erreurs, il y aura des oublis, il y aura des problèmes. Donc la meilleure façon, c'est mettre en place un projet qui est structuré de telle sorte qu'il pourra survivre même aux erreurs. Et donc la stratégie, c'est de créer vraiment un réseau international des miroirs dans lesquels toutes les données que nous collectons sont dupliquées, réparties à plusieurs endroits dans la planète, de façon que s'il y a un problème, que ça ne mette pas en danger la totalité de ces connaissances. Ça, c'est la phase préservation. Et après, la phase des partages, qui est très importante, parce que si on collecte et on préserve, et vous ne pouvez pas regarder, vous ne pouvez pas utiliser, mais à quoi bon faire tout ce travail? Il y a des bouts de code magnifiques qu'on peut mettre en valeur, qu'on peut partager. Et en réalité, on pourrait même se dire, ça commence à devenir un jeu. Qu'est-ce que vous allez retrouver là-dedans qui est important? Trouvez-le, partagez-le. Maintenant, on a des références permanentes, systématiques, des identifiants persistants qui vont rester vraiment pour les long terme. On peut les trouver, les mettre sur un blog post, les retweeter, les mettre dans un article scientifique. Donc tout ça est enfin devenu possible.
Qu'est-ce que c'est une ligne de code magnifique?
Je vais essayer de donner une analogie. Vous voyez, par exemple, on écrit tous des textes tout le temps, d'accord, en français, etc. Par contre, il y a quand même une grosse différence entre une lettre quelconque qu'on envoie à un copain ou à un fournisseur et une poésie ou une page d'un roman très travaillé. Vous voyez, une page d'un roman, et l'auteur l'a travaillé, l'a retravaillé, l'a réfléchi, l'a modifié, jusqu'au moment où il est vraiment content. Donc ça contient énormément d'efforts et d'énergie. Les logiciels, c'est très similaire. C'est le logiciel qui est vraiment bien écrit, et a demandé un effort énorme, et à la fin, peut-être, ça s'est réduit à 20 lignes, 30 lignes, 40 lignes. Mais dans la beauté, souvent, c'est l'élégance, la capacité de résoudre des problèmes en quelques lignes, de façon intelligente, de façon compacte, concise, et en même temps lisible.
Alors, j'aimerais voir un petit peu avec vous comment on peut s'en servir et puis qu'on prenne un petit exemple de navigation justement dans cette bibliothèque d'Alexandrie du code source.
Voilà, mais il y a des exemples qui sont vraiment magnifiques. Donc par exemple, si on va sur archive.softwareheritage.org ou archive.softwareheritage.org, dans la barre de recherche, on peut mettre par exemple Apollo-11. Voilà, on arrive dedans, on rentre dedans, on clique dedans et vous regardez, il y a plein de codes sources. Et parmi les codes sources, il y en a un qui est quand même magnifique. Ça s'appelle Burn Baby Burn. Alors, c'est quoi ça? C'était un tube des années 60 qui était connu par les gens qui développaient tout ça. Et évidemment, c'est très approprié pour les logiciels qui devaient s'occuper de l'allumage des moteurs. Donc c'est la Master Ignition Routine. Donc on rentre dedans. Et là, vous voyez aussi, donc ils avaient plein de commentaires, parce que ces logiciels-là étaient écrits avec de l'assembleur, qui est très proche de la machine, donc c'était quand même un peu compliqué à suivre. Et là, il y a des choses qu'on trouve. Vous voyez, par exemple, ici, on explique que cette routine-là est utilisée pour allumer tel programme. Il y a les programmes d'ULEM, là, les Lunar Modules. Et alors, la section dans laquelle il y a les paramètres, introduite par des commentaires, ils sont incroyables, on n'attend pas dans les codes sources, on dit justement « on y soit qui mal y pense », c'est-à-dire vraiment comme ça en français, et plus bas, en latin, c'était « non li s'étangere », ne touchez pas à cette partie-là, parce que
c'est incroyable, c'est vraiment un lien entre la culture vraiment la plus ancrée, la plus traditionnelle, et là, c'est une incursion dans le code source, dans l'origine du code source, finalement, c'est
absolument
incroyable.
Absolument, parce que vous voyez, ce n'est pas une histoire juste technique, c'est une aventure humaine, tout ce développement de cette technologie. On est tellement habitué juste à appuyer sur un bouton et ça marche qu'on oublie que derrière, il y a des armées de personnes qui ont passé avec passion leur temps pour faire en sorte que l'objet finalement fonctionne. Alors, ce n'est pas le cas de tout, hein. Il y a des objets qui sont très mal faits, mais il y a des objets qui sont exceptionnels. Et c'est ça, ça vaut vraiment la peine de préserver et de rendre disponible pour les futurs.
Alors, cette bibliothèque mondiale, cette archive mondiale, elle vient d'ouvrir. Quelle est la suite pour Software Heritage? Qu'est-ce qui va advenir ensuite?
L'effet d'ouvrir les portes de l'archive était un moment historique qu'on attendait depuis très longtemps. Mais après, une fois qu'on a fait ça, il y a une grande mission d'aller rechercher les logiciels majeurs qui sont au cœur de la transformation numérique qui a changé notre monde. La plupart de ces logiciels existent encore. Leurs codes sources existent encore. On ne sait pas exactement où, mais les personnes qui les ont écrits, les ont conçus, la plupart sont encore vivantes. Un autre exemple, voilà, chercher dans 83 millions d'origines des codes sources. Ça, c'est quand même beaucoup. Donc, il faut qu'on utilise des techniques modernes, par exemple l'intelligence artificielle, le machine learning, pour classifier tous ces contenus et les rendre plus facilement recherchables, accessibles pour tout le monde, y compris pour les grands publics.